Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Voilà, toujours Tech & Co, la quotidienne depuis le Mobile World Congress de Barcelone édition 2026 sur le stand Orange. Et j'accueille maintenant Bruno Zerbib. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Directeur exécutif en charge de l'innovation chez Orange. Merci tout d'abord de nous recevoir ici sur ce stand qui est impressionnant, avec évidemment énormément de sujets que vous mettez en avant. Hein. Vous êtes là pour présenter les nouveautés, mais aussi les tendances dans le monde des télécoms. Et ça, c'est passionnant. Il y a plein de tendances. Mais j'aimerais qu'on se focalise sur deux. Tout à l'heure, on parlera de la connectivité par satellite parce que c'est vraiment un sujet, quand on est opérateur télécom, qu'il faut prendre au sérieux, j'ai envie de dire. Mais pour débuter, c'est l'IA. Parce que l'IA, on en parle depuis... On en parlait déjà l'année dernière. Mais j'aimerais savoir comment un opérateur télécom et l'industrie des télécoms est en train d'être, on va dire, révolutionné ou pas d'ailleurs par l'intelligence artificielle.
Alors c'est un sujet vaste. Aujourd'hui, quand on parle d'IA, il y a deux aspects fondamentaux. C'est comment l'IA va nous changer, nous opérateurs, va changer notre façon même de repenser la relation client, d'automatiser nos réseaux, de travailler différemment. Et puis l'autre aspect, c'est quels sont les cas d'usage ? Comment nos utilisateurs, nos clients finalement, vont changer leur façon de travailler ou leur façon d'interagir avec de l'IA. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que l'IA va déformer nos réseaux, va évoluer d'une façon totalement surprenante ou pas ? Et on voit évidemment, on anticipe des cas d'usage qui vont changer. Aujourd'hui, quand on pense à l'IA, ça reste une expérience qui est très centrée sur le texte, ChatGPT ou Gemini par exemple, ouais. Mais on sait que ça va évoluer, on sait qu'on va avoir une IA qui va devenir multimodale, on en parlait déjà il y a quelques mois, une IA qui va devenir beaucoup plus interactive, une IA qui va finalement analyser tout ce qui se passe, ça peut être à la fois avec des oui. lunettes augmentées.
Donc c'est la vidéo, l'audio
C'est la vidéo, l'audio, c'est aussi des devices qui vont arriver, donc aujourd'hui on parle évidemment, on pense au mobile, au smartphone, mais on voit bien, on voit les annonces d'OpenAI avec Johnny Ives, qui laisse préfigurer qu'ils vont sortir un smart speaker où on va avoir de plus en plus aussi une présence d'avatar, c'est-à-dire qu'on va vouloir humaniser l'intelligence artificielle, donc on va en fait parler à des êtres humains virtuels. Donc on sait que toutes ces choses-là vont arriver et vont en fait déplacer l'utilisation de l'IA vers quelque chose qui va devenir beaucoup plus je dirais un anglicisme human-like.
Mais alors ce qui est intéressant, c'est que je me souviens, je vous avais reçu à VivaTech il y a quelques temps de cela, je crois que c'était en 2024, et vous me disiez, François, les réseaux 5G vont être super sollicités par l'IA parce que ChatGPT, parce qu'on va parler avec la voix, on va prendre des photos, on va faire des vidéos qu'on va envoyer à ces modèles d'intelligence artificielle. Est-ce que vous voyez une différence en fait de la topologie d'utilisation des réseaux ou pas encore finalement c'est anecdotique?
Alors c'est un sujet qu'on regarde de très près parce qu'évidemment vous le savez hein, pour nous avoir le meilleur réseau qui répond aux cas d'usage d'aujourd'hui et de demain, c'est très très important pour tout opérateur, c'est important. Je dirais la chose suivante, on en a parlé il y a deux ans plus tard, l'intelligence artificielle a évolué, est toujours très basé sur le texte. On voit de plus en plus d'utilisations autour de la voix. Donc il y a de plus en plus de personnes oui. qui interagissent avec, avec la voix en fait. On a aujourd'hui très peu de cas d'usage qui est basé autour de la vidéo. Parce qu'on n'a pas encore les bons devices. Ouais. En fait, on n'a pas encore les bons cas d'usage.
Il n'y a pas encore la killer app peut-être aussi.
Il n'y a pas encore la killer app, c'est encore un peu artificiel. Je pense qu'avec les lunettes connectées, on va en voir un peu plus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on pense vraiment que ça sera entre un être humain et l'IA, mais il y a aussi les machines qui vont se connecter, qui utiliseront de l'IA. Donc il va y avoir beaucoup plus de trafic. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un trafic montant qui va augmenter beaucoup plus vite que dans le passé. Ça, on le sait, on se prépare. Quand on regarde un petit peu les architectures des réseaux télécoms aujourd'hui, c'est basé sur l'idée que 80% du trafic est descendant oui. et seulement 10 à 20% du trafic est montant. Donc ça va sûrement changer dans les prochaines années.
Oui, il y avait déjà la visio qui changeait un peu ce paradigme. Il y a de plus en plus de gens qui font des visios maintenant.
Qui est beaucoup plus symétrique par définition.
Oui, c'est clair.
Tout à fait.
L'IA donc, dans la gestion des réseaux, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'arrière-boutique d'Orange que nous, on ne voit pas en tant que client, l'IA... bouleverse un peu le quotidien d'un opérateur télécom ou pas ?
Absolument. En fait, l'IA va devenir le nouveau cœur de réseau. En fait, là, on est dans un monde où il va falloir être capable de dynamiquement donner à chacun de nos clients, pour chacune de ses applications, la bonne qualité de service au bon moment. Et au bon moment, ce n'est pas une heure ou deux heures. On a beaucoup parlé du slicing, cette idée de donner fait une forme de classe à faire à nos clients, de leur donner la possibilité d'avoir...
Ce que permet le réseau 5G SA.
Tout à fait, exactement. Ça vient avec le réseau 5G SA. Mais ce qu'on comprend, est un peu différent. Ce qu'on comprend, c'est que la 5G SA, pour qu'elle marche vraiment bien et qu'on puisse donner aux gens la possibilité d'éviter de se retrouver bloqués sur le périphérique d'une certaine façon, c'est-à-dire dans un endroit qui est vraiment très engorgé en termes de trafic, on va devoir leur donner en temps réel la capacité de pouvoir avoir leurs conversations, leurs applications, être déplacées dynamiquement sur le réseau pour avoir la bonne qualité de service à la microseconde près.
Et donc ça, c'est l'IA qui le fera ?
C'est l'IA parce qu'il va falloir une capacité d'orchestration, en fait, un cerveau ultra puissant qui, en temps réel, va pouvoir prendre ce genre de décision.
On parle beaucoup de SAV, que demain, on pourra parler à une IA parce qu'on a un problème, je ne sais pas moi, d'abonnement, de réseau, etc., etc. Avec le recul, ça fait un moment qu'on en parle. Est-ce que ça va arriver ? Est-ce que c'était plus bullshit ?
Non. Alors ça, pour le coup, ça arrive. Aujourd'hui, on est capable, avec une IA, d'aller largement au-delà des fameux bots, des chatbots qu'on a tous détestés depuis des années. Et on arrive à des choses absolument extraordinaires. On est capable aujourd'hui de comprendre l'historique d'une relation client, de comprendre quels sont les défis, les challenges, les problèmes, d'y répondre rapidement. Après, derrière, est-ce qu'à un moment donné, il y a encore besoin d'avoir certaines relations directement avec des êtres humains pour des cas plus précis ? C'est absolument encore le cas. Et chez Orange, par exemple, nous, on pense que cette intelligence artificielle va aider nos conseillers dans les magasins à pouvoir plus rapidement, de façon encore plus efficace, à comprendre, à anticiper les besoins de nos clients.
Oui, donc ça reste un outil pour l'humain qui va être meilleur, en fait. C'est ça l'idée.
C'est un outil, c'est un complément. Et sur certains cas d'usage, ça peut être une technologie assez autonome.
Intéressant.
Ouais.
Puisqu'on parle de nouveaux devices, lunettes connectées, etc., etc., ce truc-là qu'on a entre les mains depuis des années maintenant, qui évolue un petit peu chaque année, est-ce que ça va rester l'objet de communication ? Est-ce que chez Orange, vous imaginez déjà le device de demain qui sera peut-être bourré d'IA, qui ne ressemblera peut-être pas à un téléphone ? Quel est votre point de vue là-dessus ?
Je pense que déjà, le fait de basculer de la SIM à la eSIM, ça on n'y pense pas, mais ça permet très facilement en fait, de donner de la connectivité à plein de devices. En fait, n'importe quel device aujourd'hui, finalement, peut devenir un device connecté. Ouais. Pas simplement Wi-Fi, mais en 5G. La deuxième chose, c'est quand moi je pense à l'évolution des smartphones, je pense qu'elle a déjà eu lieu, puisqu'on a déjà des watches, on a des téléphones qui vont évoluer eux-mêmes. C'est-à-dire que quand vous regardez les nouvelles versions d'Android, vous regardez ce que sait faire Gemini, l'idée c'est quoi ? C'est de se rapprocher. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les vieux Star Trek, où ils ont tous leur... leur communicateur et en leur disant voilà ordinateur est-ce que tu peux faire ça pour moi. En fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin nécessairement d'une application. Si par exemple je veux aller sur Insta, évidemment là je vais avoir besoin d'une application parce qu'il y a une expérience qui est très forte. Je veux voir des vidéos, je veux voir ce qu'ont posté d'autres personnes. Mais si je veux commander un taxi, ou si je veux réserver un restaurant, ou si je veux scheduler un meeting, est-ce que j'ai besoin d'une application? Non, j'ai juste besoin...
Ça ne va pas faire plaisir à Uber, ce que vous dites là.
La question, c'est est-ce que Uber pourra continuer de monétiser son service transactionnel qui deviendra en fait un service en arrière-plan.
C'est ça.
C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir ces services ne vont pas disparaître, mais ils vont bouger dans un arrière-plan. En fait, ils vont devenir moins visibles, mais ils resteront toujours nécessaires.
C'est passionnant tout ça.
C'est passionnant.
Ça va arriver quand, à votre avis ? Il y a déjà des prémices de ce bouleversement ?
Alors techniquement, on sait le faire. En fait, si vous regardez les annonces d'Amazon, par exemple, sur Alexa
Plus,
le nouvel Alexa, ouais. Ils ont mis en place déjà un écosystème de services avec plusieurs centaines de services où vous pouvez directement interagir. Quand vous regardez ce que fait OpenAI, ils sont aussi en train d'annoncer ces écosystèmes. La question, c'est est-ce que les applications qui sont les plus en vogue aujourd'hui vont se laisser s'ouvrir ? Est-ce que Expedia acceptera demain de ne plus être qu'un service d'arrière-plan et se laissera finalement désintermédiser par une IA ?
Ouais, ça, c'est pas sûr. Mais bon.
Ça prendra du temps en tout cas.
Ouais. Voilà. Alors, autre sujet intéressant ici, c'est la volonté de tous les opérateurs et d'Orange d'avoir une connectivité tout le temps, partout, même quand on n'a pas de réseau. Et la solution, c'est le satellite, c'est pas nouveau, mais on voit que ça devient un vrai sujet. Aujourd'hui, alors évidemment il y a Starlink, il y a la constellation Léo d'Amazon qui est en train de se préparer. Tout à l'heure on recevait Skylo qui est partenaire d'Orange justement pour l'envoi de SMS. C'est un gros sujet ça, la connexion par satellite.
C'est un sujet important parce que pour nous, déjà il faut prendre un peu de recul. On a une très grosse partie de la population mondiale qui n'est pas connectée. On l'oublie parce que si on vit à Paris par exemple, on se pose jamais la question de la connectivité,
oui,
ou rarement.
Ici même à Barcelone, dans des grandes villes.
Même à Barcelone.
Voilà.
Mais si on vit dans certains endroits, ça peut être évidemment certaines régions de l'Afrique, par exemple. Vous savez, on est opérateur dans 16 pays en Afrique, ou ça peut être même certaines parties en Europe ou clairement aux États-Unis. On n'a pas de connectivité systématiquement disponible. Donc il faut déjà adresser ce problème-là. Et évidemment, le fait d'avoir une couverture satellitaire permet fondamentalement, virtuellement, à n'importe qui d'avoir une connectivité partout. Ça peut être aussi en bateau, en train de se déplacer, ce qui est déjà le cas.
Donc ça, c'est très...
Les avions, on le voit. Et évidemment, on est au courant. Voilà, Air France est passé sur Starlink. Donc ça, c'est déjà le premier point. Donc pour nous, en fait, c'est très important de dire à nos clients, si vous avez la connectivité, la meilleure connectivité restera la connectivité mobile. Ça, c'est les lois de la physique. Par contre, si vous êtes en déplacement et vous n'êtes pas sûr de l'avoir, ça devient un problème. Donc, on veut être sûr de leur donner le meilleur complément possible à cette connectivité qui est la connectivité 5G, en leur donnant en fait un accès satellitaire. Et ce qui est aussi sûr, c'est qu'elle va changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on pense à la connectivité satellitaire, on pense au SMS, on pense que cela va évoluer. C'est-à-dire que d'ici les prochaines années, avec les déploiements des constellations qui vont devenir de plus en plus denses, avec les technologies qui évoluent, on va se retrouver pour les zones non urbaines, c'est-à-dire les zones qui ne sont pas quand même trop denses, avec quelque chose qui va progressivement converger vers ce qu'on appelait en fait le début de la 4G. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une connectivité data, voice, vidéo, qui ne sera pas au niveau de la 5G, et surtout pas en zone urbaine, puisqu'on aura toujours un problème de densité.
Il y aura toujours les eaux terrestres.
Et voilà. Et puis surtout en zone urbaine, il y a un problème de densité avec les satellites qu'on n'arrivera jamais à régler. Mais si vous êtes en déplacement dans un endroit où il y a peu de densité, il y a peu de couverture, vous serez capable de faire un coup de fil, passer un coup de fil, même un vidéo call en satellite.
Mais est-ce que c'est pas une technologie qui échappe un peu aux opérateurs télécoms quand même? Parce qu'on voit que les acteurs aujourd'hui leaders, c'est pas des opérateurs télécoms. Starlink, c'est Elon Musk.
C'est une bonne question.
Amazon, Jeff Bezos. Est-ce que les opérateurs télécoms n'ont pas raté le coche en fait de la connectivité par satellite? Alors, je sais que vous avez un satellite, vous avez des satellites, etc. Mais ce sont d'autres technologies en fait.
Alors, en termes d'investissement, aujourd'hui, ceux qui investissent sur les constellations satellitaires ne sont pas les opérateurs de télécommunications, ça c'est sûr. Mais ce que nous demandent nos clients nous demandent d'avoir une expérience qui est seamless, qui est continue. De pouvoir, en fait, commencer en 5G et puis d'avancer, à un moment donné, on perd la couverture, de passer en couverture satellitaire, de revenir. Ils nous demandent aussi de rester sur le réseau Orange, c'est-à-dire d'avoir aussi la confiance dans l'opérateur, d'être sûr, finalement, qu'on n'est pas dans cette... idée qu'on va passer notre temps à roamer comme si on allait dans un autre pays. Et donc cette continuité d'expérience, le fait d'avoir toujours un contrat, le fait d'avoir
un seul interlocuteur,
le fait d'avoir en fait une application, par exemple je commence un call demain, j'aimerais pouvoir le continuer, que ça peut être un call sur WhatsApp ou en natif, toutes ces choses là en fait reste à notre main. C'est-à-dire qu'on a quand même cette responsabilité qui est unique d'avoir cette continuité d'expérience de bout en bout.
D'accord. Et vous sous-traitez avec des technologies qui, pour certaines, ne vous appartiennent pas.
Mais ça a toujours été le cas.
On a toujours
travaillé avec un écosystème de vendeurs.
Merci beaucoup, Bruno Zerbib, directeur exécutif en charge de l'innovation chez Orange. Merci beaucoup.
Merci.